Vous écoutez RTL.
Tout de suite, notre second thème de curiosité sur RTL, Picasso et les femmes. Et on va laisser notre invité s'installer. Bonjour Frédéric Fernet.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes écrivain passionné par la vie et l'œuvre de Picasso. Ces œuvres, ces tableaux qui sont intimement liés à ses passions et aux femmes de sa vie. Si on doit juste poser le décor, combien de femmes officielles et combien d'enfants ? Est-ce qu'on peut déjà
identifier 7 parce que c'est celle dont on retrouve l'ombre furtive, parfois explicite, parfois chiffrée dans sa peinture.
Mais combien 7 dites-vous ?
Oui, moi j'en détecte 7 parce que vraiment c'est celle dont on retrouve qu'il y a, il y a des périodes. On peut dater les périodes. Picasso, c'est Can Valère, son marchand, disait sa peinture est fanatiquement autobiographique. En même temps, je pense que ça serait une erreur de limiter son œuvre à un simple reflet ou à une simple facette de sa vie. Picasso, c'est un ogre, c'est-à-dire que bon, il prend. Toutes ces femmes, ce sont moins des égéries ou des muses que des proies.
Et
il leur arrache le cœur et il le transpose dans la peinture. En même temps, il les a vraiment aimées.
C'est en même temps, c'est
un de ces hommes dont on peut dire il était ivre d'étreindre et incapable d'aimer. Il a sans doute été plus aimé qu'il n'a jamais aimé. Il faut quand même toujours se souvenir que sur les 7, il y en a quand même 2 qui se sont suicidés.
Ça pose, si j'ose dire.
À sa mort.
Après sa mort.
Et en plus, Marie-Thérèse, l'une des deux, Marie-Thérèse, elle s'est suicidée en 77, donc l'année de sa mort, alors qu'il l'avait quittée depuis longtemps.
Allez, Picasso était donc un ogre qui a dévoré les femmes de sa vie. On vous raconte les secrets d'un génie sur RTL dans quelques instants.
Picasso, de nouveau, tombe amoureux.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Vous êtes extraordinairement jeune, Pablo Picasso. Est-ce que vous pensez quelquefois...
Vous savez mon âge.
La curiosité est un vilain défaut.
J'étais impressionné, en tout cas très touché de cette espèce de sympathie, amour, ou je ne sais pas, ou amitié que et tant de gens me portent.
Sur RTL.
Elle s'appelle Fernande, Jacqueline, Marie-Thérèse, Eva, Olga, Dora, Françoise. Picasso les a toutes aimées successivement et parfois simultanément. On découvre le séducteur insatiable et parfois maléfique avec notre invité, l'écrivain Frédéric Fernet. Frédéric Fernet, il faut parler d'un autre personnage féminin qui est très important dans la jeune vie de Picasso avant de dérouler. C'est sa mère, parce qu'il porte le nom de sa mère, c'est ça ?
Il porte le nom de sa mère et probablement sa mère est la première personne qui a cru que ce petit garçon avait un destin. Ensuite, il y a eu le père. Il y a une scène un peu mythologique, un peu, qui a été racontée par les biographes. À un moment donné, son père, qui était aussi un peintre du dimanche, à un moment donné, lui remet sa palette comme s'il lui passait le flambeau. Et à l'époque, il a 7 ou 8 ans. Le premier tableau de Picasso qu'on connaît, ça s'appelle Le Petit Picador. Et c'est toujours intéressant de penser que son dernier tableau, c'est encore La Corrida. Et moi, je pense qu'on a vis-à-vis de Picasso, enfin, Picasso, c'est quelqu'un qu'on. Je pense que c'est difficile de l'aimer. On ne peut que l'adorer ou le détester. Au fond, le rapport que la plupart des gens ont avec Picasso, c'est un peu le rapport qu'on peut avoir avec La Corrida. On aime, on adore ou on déteste. Mais vu la brutalité quand même qu'il a parfois montré, Picasso, c'est un peu c'est une alliance entre la volonté de puissance et le principe de plaisir. En même temps, a-t-il rendu ses femmes heureuses ? Sûrement.
Je veux dire, enfin, mais pas que.
C'est à elle, ça serait à elle de le dire. Mais en tout cas, oui, il a eu des c'est un passionné. C'est pas un intellectuel, hein, c'est un sensitif.
Alors, il y a eu un autre personnage féminin majeur dans sa jeunesse, c'est sa sœur Conchita.
Oui.
Il a 13 ans quand elle meurt de la diphtérie en janvier 1895. Comment réagit-il ?
Mal, ça va presque conditionner, je dirais, toute la première période, ce qu'on a appelé la période bleue, qui est une période assez sombre, morbide, mélancolique. Et ce bleu, c'est un bleu, c'est pas un bleu d'azur, c'est un bleu de noyer, un bleu de viande, un bleu. Alors, il a dit que c'était en pensant à la mort de son ami Casagemas, qui va se suicider par amour à Paris. Il est venu à Paris avec ce Casagemas, c'était un peu son compagnon de bamboche, et à un moment donné, donc il se suicide. Et ça va conditionner toute la période bleue, on va dire.
Quelle femme,
avant d'arriver en France, en 1900, Il est déjà un peintre, disons, académique, reconnu, et c'est comme ça que finalement il est envoyé à Paris. Il aurait pu faire une carrière de peintre totalement académique.
Frédéric Fernet, quelle femme le sort de cette période bleue, de cette période mélancolique?
Fernande. C'est Fernande. Avec Fernande, on va dire, le bleu commence à pactiser avec le rose. Ça a été vraiment là. Alors presque là, on pourrait presque dire qu'elle a été sa muse. Il y a eu une exposition à New York il y a une vingtaine d'années. Il y avait une centaine d'œuvres où Fernande, dont Fernande était le modèle.
Même il si la rencontre pas... à Paris, c'est ça?
Oui, il se rencontre à Paris au Bateau Lavoir.
C'est quoi aussi... le Bateau Lavoir? Il faut l'expliquer.
Ah bah, le Bateau Lavoir, oui, c'est le lieu où se retrouvent tous les peintres. Gueux comme peintre, disait ma grand-mère. Fernande, c'est vraiment... Oui, c'est la bohème, c'est les années de vache enragée et en même temps les années magnifiques où il est totalement libre. Il est encore évidemment totalement inconnu, il ne parle pas français. Mais il rencontre déjà des gens qui...
Mais elle, elle est française, Fernande? Parce qu'elle racontera ses années de passion et de vache maigre. Ouais. De quoi vivent-ils? Et puis, à un moment,
elle, Picasso
l'enferme.
Elle est plus ou moins modèle. D'ailleurs, il est très jaloux. Il est férocement jaloux. Elle va poser pour d'autres peintres et il ne supportera pas du tout.
Et c'est pour ça qu'il l'enferme?
Oui, c'est un jaloux. Marie-Thérèse, beaucoup plus tard, dira Picasso, au fond, son rêve, c'était d'avoir un grand château avec une femme dans chaque chambre. Comme un arabe, dit-elle.
Ah oui. Un harem.
Un harem.
Il a fait souffrir les femmes de sa vie. Il les a toutes peintes.
Il les a toutes peintes. Oui, il les a toutes peintes. Enfin, mais encore une fois, il en fait des. C'est plus des aliments pour sa fièvre, des motifs. Je pense par exemple à celle qui va succéder à Fernande, qui est Eva, qui est peut-être celle qu'il a le plus aimée. Ça correspond à la période cubiste. Et Son amour éclate de partout, donc il la peint pas, c'est pas une période figurative, donc il ne fait pas son portrait, mais il écrit dans un coin du tableau « Ma jolie » ou « J'aime Eva ». En fait, il la transforme en sitar, en boîte d'allumettes, en mandoline, mais elle est là, et l'énergie est là. Au fond, ce qui puise dans le réel, et en l'occurrence dans ces figures du féminin, ces figures de la femme, c'est ça, c'est de l'énergie.
Et Frédéric Fernet, certes, certaines de ces œuvres cubistes de Picasso, on peut les admirer en ce moment au Centre Georges Pompidou dans une exposition dont RTL est partenaire. On va continuer de raconter l'histoire de ces femmes, les femmes de la vie de Picasso.
Alors bon, Picasso, on va rappeler un peu, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes, donc on va essayer quand même de rappeler avant de vous interviewer. Oui, je sais.
RTL.
S'il divorce pas, il trompe très rapidement votre grand-mère avec Marie-Thérèse Walter.
Thomas Hugues.
Et puis après, il y a Dora Maar, il y a Françoise Gillot, qui est la mère de Paloma, qu'on connaît.
Anaïs Bouton.
Ensuite, il y a Jacqueline Roch, enfin voilà, donc il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie.
La curiosité est un vilain défaut.
Les femmes de Picasso sont dans l'œil de notre curiosité, comme elles étaient dans l'œil du peintre. Et c'est l'écrivain Frédéric Fernet qui nous dévoile ce Picasso amoureux. Alors un amoureux insatiable, hein. Il ne savait pas vivre seul en fait, Picasso.
Non, c'est vrai qu'il était... En même temps aussi, il y a trois grands... Les trois remèdes à la mélancolie chez Picasso, c'est le travail, le sexe et l'argent.
Bah oui.
Et ça l'accompagne toute sa vie. On l'a dit, c'est un ogre.
Et volage.
Oui. Qu'est-ce que la force? Picasso, c'est la force, c'est l'instinct. La force, c'est ce qui fait de l'autre une chose. Il y a une phrase terrible de Picasso, il dit « Moi, je mets tout ce que j'aime dans ma peinture, je mets tout ce que j'aime dans ma peinture, tant pis pour les choses. Tant pis pour les choses. »
Oui. Et alors, comment il quittait une femme pour une autre?
Est-ce qu'il les quittait seulement?
Il les veule, comme sont la plupart des hommes, c'est-à-dire qu'il ne rompt pas, il se délie, il s'échappe, il s'absente. Et vous l'avez très bien dit au début, il a aimé des femmes successivement, mais parfois simultanément. Hein. Il y a des zones un peu coextensives comme
oui,
ça.
On racontera ça en détail. Est-ce que toutes ces femmes se ressemblent? Est-ce qu'il y avait une femme
du
type
tout.
Que
figure? Non. Je ne vois pas quel est le dénominateur commun, à part qu'elles ont été l'objet de son désir, qu'elles ont suscité son attrait. Parfois un attrait très violent, je veux dire, on a parlé de Marie-Thérèse qui va se suicider donc l'année de sa mort, après qu'il l'ait quittée. Il la rencontre comme ça dans une bouche de métro, en fin des années 20, 27 je crois, devant les guerriers Lafayette, et il lui dit, il lui saute dessus quoi, en lui disant, mais madame, mademoiselle, vous êtes belle, on va faire de grandes choses ensemble. Elle ne sait même pas qui c'est d'ailleurs.
C'est une gamine, elle a 17 ans.
Elle a 17 ans.
Ouais. Et lui, il en a 45.
Et lui, il en a 45. Ils ont 40 ans d'écart, je crois.
Il était comme Hitchcock, c'est-à-dire qu'il avait une obsession de la blonde ou d'un physique particulier.
Oui,
ou...
mais contrairement à Hitchcock, Hitchcock a dit une phrase terrible, « The actors are cattle ». Les acteurs, c'est du bétail. Mmh. Lui, il les fait exister quand même. Comme je le disais tout à l'heure, elle réexiste, elle se réincarne dans la peinture. Alors, sous des formes, en effet, sous des formes parfois chiffrées ou codées. Mais,
Est-ce qu'on peut dire à chaque femme une période de
c'est ce que j'ai essayé de faire.
La période bleue, la période rose,
la période rose, c'est Fernande. Eva, c'est le cubisme.
Qu'on peut voir au Centre Georges Pompidou en ce moment.
Olga. Alors après, bon, c'est difficile. On peut pas faire des catégories. En plus, c'est un talent extrêmement multiforme. Mmh. Enfin, je veux dire, il s'est jamais vraiment enfermé dans un genre.
Alors Olga, parce qu'on raconte aussi les anecdotes, Frédéric Fernet. Et donc c'est une Russe. On lui dit attention, les Russes, on les épouse.
Mais c'est Diaghilev qui lui dit ça. Il faut raconter un tout petit peu avant ce qui se passe. Eva meurt pendant la guerre. Mmh. Et je disais, c'est probablement peut-être la femme qu'il a le plus aimée. Et en plus, elle le quitte. Il n'y en a pas beaucoup qui le quitteront. Mmh. Elle le quitte, puisque donc elle meurt pendant la guerre. Donc c'est une période extrêmement sombre. Enfin, tous ses amis, tout ce cosmopolitisme parisien un peu volé en éclats. Donc il est très, très déprimé. Et un jour, il rencontre un jeune homme qui s'appelle Cocteau. Mmh. Et c'est lui qui va le sortir de la déprime. Donc il l'entraîne à écrire, à faire les décors de Parade, ce spectacle que va mettre en scène Diaghilev. Et donc il va faire toute une tournée toute en Europe. Donc,
et Olga, c'est une danseuse.
C'est une des danseuses du ballet. Alors, je ne sais plus exactement s'il la rencontre déjà à Rome. Peut-être qu'il la croise à Rome, puisque donc il va en Italie avec Cocteau. Et ensuite, donc, il y a une tournée dans le monde entier, notamment à Barcelone. Et c'est à Barcelone qu'il se déclare. Mm-hmm. Et c'est là qu'effectivement, il la présente à sa mère. Et Diaghilev dit, une ruse, on l'épouse. Et du coup, ça va donner une période, un style beaucoup plus classique. Le portrait d'Olga, le premier portrait d'Olga, c'est un portrait qui est extrêmement... extrêmement classique. Quand il est amoureux, il redevient classique.
C'est drôle.
Pas longtemps, mais un peu.
Oui. Et donc, il y a cette rencontre entre Olga et sa future belle-mère, hein, puisqu'elle va épouser Picasso. Maria, donc la maman de Picasso, qui dit à Olga, je ne crois pas qu'une femme puisse être heureuse avec lui. Elle ne va pas l'écouter. Elle va se marier. Cette phrase de la maman de Picasso, elle s'applique, je crois, pendant le reste de sa vie. On va raconter cette... je ne sais même pas si c'est une double ou une triple vie là, qui arrive dans les années 20 et 30 dans la vie de Picasso. Restez avec nous sur RTL.
RTL. Picasso. La curiosité est un vilain défaut.
Pablo Picasso et Dora Maar se rencontrent à l'automne 1935.
Anaïs Bouton.
Dans l'atelier du photographe Man Ray, Picasso découvre un portrait qui le subjugue.
Thomas Hugues.
Picasso amoureux, c'est le thème de notre curiosité sur RTL et le titre du livre de notre invité Frédéric Fernet, livre publié aux éditions Rabelais, Picasso qui vieillit et dont les conquêtes rajeunissent. Alors on va raconter cette période fin des années 20. Il a 45 ans, il rencontre donc Marie-Thérèse, vous nous l'avez dit tout à l'heure, elle a 17 ans, il est à l'époque marié encore avec Olga, ils ont un petit garçon, Paolo, c'est celui qu'on voit sur
Paul, en Arlequin,
ce tableau très connu de Picasso. Donc c'est lui en Arlequin, donc c'est un homme marié, il rencontre cette gamine, 17 ans, et il rencontre aussi Dora Maar.
Il restera marié jusqu'à la fin, il ne divorcera jamais d'Olga. Ouais. Et alors si, il se remariera avec la toute dernière...
Avec Jacqueline.
Ouais.
Et donc Dora Maar, pardon, mais Dora Maar, est-ce qu'elle est déjà célèbre quand il la rencontre?
Absolument, c'est une photographe, elle a déjà exposé, elle est née en Argentine, enfin, elle est très cosmopolite, une espèce de beauté comme ça, un peu androgyne, enfin, c'est pas du tout... A priori, il tombe amoureux d'une femme qui n'est pas son genre, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en général, il n'a pas des relations tout à fait intellectuelles. Là, oui, c'est vraiment une union à la fois physique et intellectuelle. Mais elle le snob un peu au départ. Hein. Au départ, alors, le tableau, j'ai intitulé le chapitre « La femme qui pleure », parce que c'est donc le tableau, elle s'identifiait un peu à ça. Mais c'est une image. Hein, c'est pas... Et puis, une chose qu'il faut dire aussi... C'est une parenthèse, mais elle est importante. On essaye toujours de trouver du symbolique, enfin du sens dans les tableaux. Il est absolument réfractaire au symbolique, Picasso. Il disait, moi je veux que, que mes poireaux sentent le poireau et que mes femmes sentent sous les bras. Alors, lui, il y a des tentatives encore récemment là pour dire, par exemple, dans Guernica, c'est pas du tout un tableau sur Guernica. C'est, il raconte sa vie. Alors oui, j'ai dit fanatiquement autobiographique. Oui, mais non, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, il répond à ça en disant, mais enfin, moi, j'ai pas pour peindre un palais, je m'inspire d'une bicoque. Ouais. Encore
mais
une
dans
fois,
Guernica,
sa
il
puissance
reprit...
de ouais. métamorphose. Il est ivre de soi, assuré ouais. de sa force. Et voilà, il dit, moi, je prends. Et ensuite, ben voilà, les femmes que je peins, elles ont jamais existé. Elles existent maintenant mais, dans ma peinture.
Dans ces femmes,
c'est ça.
Il y a encore les deux dernières femmes de sa vie, Françoise ouais. Gillot et puis Jacqueline.
Oui, alors là, Françoise, c'est 40 ans d'écart. Hein, et Jacqueline, ça sera 45, je crois. Alors, ben, Françoise Gillot, c'est la première. J'ai intitulé le chapitre L'école des femmes, parce qu'en fait, il se prend pour Don Juan, mais il va jouer un peu le rôle d'Arnolphe. C'est-à-dire qu'il se retrouve un petit peu, effectivement, avec une femme beaucoup plus jeune, mais qui est très décidée, qui elle aussi mène une carrière de peintre. Et c'est elle qui le quitte. Alors, on a dit, oui, finalement, Picasso, il tue tout ce qu'il aime. Ben, à ce je tue tout ce que j'aime, elle va répondre je ne t'aime plus, je te quitte. Mais ils ont quand même deux enfants. Et elle reconnaîtra d'ailleurs, elle écrira une biographie qui le rendra complètement fou. Il lui fera un procès qu'il perdra d'ailleurs. Mais elle finira, elle essaiera de trouver une relation très apaisée avec lui pour les enfants. Et finalement, elle dira à la fin de sa vie que c'était quand même un homme absolument génial, tendre, donne tout dégagé et insupportable.
Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric Fernet. Picasso amoureux, donc c'est votre livre aux éditions Rabelais. Et puis je rappelle l'exposition Le Cubisme, dont RTL est partenaire, jusqu'au 25 février, voilà, au centre Georges Pompidou à Paris.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.